بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخ خير شيخ سوران اسلام نغمسي الله عز وجل الله لو تريو qui nous donne la possibilité de nous réunir pendant ce mois de Sha'ban pour parler d'un sujet extrêmement important, comment préparer la venue de ce mois de Ramadan. Dans 18 jours à peu près, chaque musulman, chaque musulmane va vivre les moments les plus intenses, les moments les plus importants de toute l'année du calendrier islamique. Et ce sont des jours à prendre extrêmement sérieux. Car le musulman a la possibilité durant ce mois de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme jamais il n'aurait pu le faire durant les 11 autres mois cumulés de l'année. Tout comme on a la possibilité de s'éloigner du jahannam, de l'enfer, de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une telle manière que jamais durant les 11 autres mois de l'année, si on cumulait les istighfar, on cumulait les bonnes actions, jamais on n'aurait pu s'éloigner autant de l'enfer que durant ce mois de Ramadan. Alors, déjà le simple fait d'être présent, de vivre le mois de Ramadan, c'est déjà une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour rien si notre prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné ce doua: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban. Nous demandons à Allah la bénédiction pour les mois de Rajab, le mois de Rajab qui est donc passé, et le mois de Sha'ban. Et on termine le doua en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala wa balighna Ramadan. On demande à Allah de nous faire parvenir jusqu'au mois de Ramadan. Les ulama rahimahumullah disent que, comme on a dit tout à l'heure, le simple fait de vivre un Ramadan, c'est déjà une ouverture, c'est déjà un cadeau, un présent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il rapporte un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam raconte l'histoire de trois personnes, trois jeunes hommes qui aimaient se dépasser mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions. Et deux de ces personnes sont morts dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire shahid. Ils ont donné leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la troisième personne est décédée une année plus tard, mais de mort naturelle. Le hadith dit il est décédé dans son sommeil. En rêve, on a vu que la personne qui est décédée dans son sommeil avait un grade supérieur aux deux autres personnes qui pourtant sont mortes dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demanda au prophète alayhi salatu wa salam la signification de ce rêve et pourquoi est-ce que la personne qui est décédée une année plus tard de mort naturelle, c'était pas une mort héroïque, hein, son grade était supérieur à ses deux amis qui pourtant eux sont morts dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exceptionnelle. Ça nous fait comprendre l'importance de ce mois. Il dit alaysa salla ba'dahuma kadha wa kadha salla. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en avant, c'est que durant une année, l'année que ce jeune homme, cette troisième personne a vécu en plus de ses deux amis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'a-t-il pas fait autant de prières de namaz faraz durant cette année? Wa adraka ramadan fasamahu. Il a dit, n'a-t-il pas fait un Ramadan en plus que ses deux amis? Cette troisième personne qui a vécu une année en plus a eu la possibilité de faire un mois de jeûne en plus que ses deux amis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète me dit que je jure par Allah, celui qui détient mon âme entre ses mains, que la distance qui existe entre ces personnes est supérieure à la distance qui sépare le ciel et la terre. Bien qu'une personne qui vit un mois de Ramadan, qui le vit correctement, consciencieusement, qui fait les jeûnes comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé, qui accomplit les actions comme un mu'min l'accomplit, qui s'éloigne des péchés comme un mu'min doit s'éloigner des péchés, qui fait vivre l'esprit, qui sait faire vivre l'esprit du Ramadan et qui réalise les objectifs fixés par le jeûne, ce musulman-là, il fait un pas énorme vers Allah subhanahu wa ta'ala et il s'éloigne de l'enfer d'une distance exceptionnelle. C'est pour cela que cette personne qui est décédée d'une mort naturelle avait un grade supérieur aux deux autres personnes. Donc en commentaire, les ulama rahimahumullah disent, les muhaddithin disent que le fait de vivre un Ramadan en bonne santé où on peut jeûner comme tout le monde, c'est déjà un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce cadeau-là, nous nous apprêtons à le vivre, nous nous apprêtons à le recevoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'ici une quinzaine de jours. Et ce qui est vraiment spécifique au Ramadan, au jeûne, au carême comme on dit, c'est que c'est une action qui a été
prescrit à toutes les communautés avant nous. Toutes les religions, chaque peuple a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala le même cadeau, le jeûne. Et le verset que nous mémorisons tous pour la plupart, le verset « Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum » que le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux autres personnes avant vous. Et quel est l'objectif recherché à travers cette prescription d'une même ibadah, d'un même acte d'adoration pour toutes les communautés? Le même objectif, c'était la'allakum tattaqun, la recherche de la taqwa, la recherche de la piété, que le musulman arrive à développer dans son cœur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le siyam ramadan katabahu Allahu ala al-umami qablakum. Le jeûne de Ramadan a déjà été prescrit aux communautés avant vous. Et là, en commentaire, les savants disent également que c'est un héritage de l'humanité. On pourrait même dire que c'est le carême, le ramadan, on peut l'inscrire au patrimoine de l'humanité, car c'est une action qui a été voulue par Allah pour toutes les communautés. Et ça prouve bien qu'à travers cet acte d'adoration, ce n'est pas la faim et la soif qui est recherchée. Allah Azza wa Jal n'a rien à gagner à ce qu'un être humain, un makhlouq, ait faim ou ait soif ou il soit fatigué durant toute la journée. Allah subhanahu wa ta'ala attend de chaque mu'min quelque chose de spécifique. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme la communauté avant nous de Isa alayhi salam, ou avant eux la communauté de Moussa alayhi salam, et toutes les communautés, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait, c'est le créateur de la machine humaine. Allah ta'ala a créé la machine humaine. Allah ta'ala a créé le ruh également, l'âme qui est insufflée dans le corps de l'homme. Allah ta'ala sait exactement le fonctionnement de l'être humain, ses forces, ses faiblesses, dans les moments de faiblesse, de quoi a-t-il besoin. Et Allah ta'ala sait pertinemment qu'au moins une fois de l'année, de manière régulière, de manière périodique, le musulman, le mu'min, celui qui croit en un Dieu unique, doit se ressourcer. Une fois de l'année, de manière périodique, celui qui croit en Allah l'unique doit se ressourcer. Et la meilleure façon de se ressourcer pour toute la race humaine, depuis le premier homme jusqu'au dernier homme, c'est par l'abstinence, par le jeûne. Parce que le jeûne, s'il est accompli correctement, mène directement à la taqwa. Et comme on l'a dit, c'est l'objectif recherché à travers le jeûne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait la bonne nouvelle aux sahaba. Une fois, il avait dit aux sahaba, « Là où يعلم الناس ما لهم في شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Si seulement le musulman savait quel bienfait Allah Ta'ala lui accorde durant ce mois, alors chacun d'entre nous, on aurait espéré que toute l'année fût Ramadan. Alors que nous sommes conscients que durant le mois de Ramadan, il y a des contraintes. C'est difficile de concilier parfois le jeûne et le travail ou les études. On est fatigué, on est harassé, on a soif, parfois il fait très chaud. C'est une action qui nous paraît difficile. Mais si le mu'min était conscient des ouvertures qu'il y a, des possibilités qu'Allah Ta'ala lui offre durant ce mois, s'il était conscient de tous les rahmat, les bénédictions qui descendent, il aurait eu ce tamanna, ce souhait que les 360 jours de l'année islamique soient des jours de jeûne, des jours de Ramadan. Parce que durant le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent. Durant le mois de Ramadan, les portes de l'enfer restent fermées. Durant le mois de Ramadan, les shayatines sont enfermées, enchaînées. C'est-à-dire Iblis, alayhi la'natullah, est enchaîné. Il ne peut pas insuffler aux mu'mines les mauvaises pensées, les waswasa, ces désirs de péché. Il ne peut pas éveiller les passions, les mauvais côtés de la passion, comme il le fait durant toute l'année. Durant le mois de Ramadan, par le biais du jeûne, le nafs est affaibli. Inna nafs ala ammaratun bis-su', l'ego qui est à l'intérieur de chaque être humain, qui le pousse en général à accomplir le mal, le nafs est affaibli. Pourquoi? Parce que durant le mois de Ramadan, le mu'min n'obéit pas à son nafs. Le mu'min ne mange pas quand il a envie, alors qu'il a envie de manger. Le mu'min ne boit pas alors qu'il a soif. Le mu'min n'approche pas son épouse alors qu'il aimerait bien le faire. Le fait qu'il arrive à, en guillemets, dompter son nafs, le nafs est affaibli. Un shaitan absent, un nafs affaibli, ça veut dire que on saura répondre présent quand il faudra faire les actes d'adoration. On saura répondre présent également quand il faudra s'éloigner des interdits. Durant ce mois, la moindre action accomplie par un musulman est multipliée. Hein, le but, c'est pas de citer les vertus du Ramadan. Durant le mois, il y aura l'occasion de faire des programmes, des dimanches, etc., etc. Mais là, c'est l'approche. Mais qu'on soit bien conscient que dès que la lune sera visible, hein, ce sera, je sais pas, vendredi soir ou samedi soir, dès les premières minutes de Ramadan, ce sont là des choses exceptionnelles qui vont se passer dans ce dunya. C'est-à-dire, la moindre action que je vais faire après la salat al-Maghrib n'aura aucune, la valeur de cette action sera incomparable avec la même action que j'accomplis 5 minutes avant le adhan. 2 rakat nafil qu'un mu'min accomplit durant le mois de Ramadan, ça a une valeur inestimable. Et ça dépasse, subhanallah, Allah seul le sait quelle quantité, mais ça dépasse la valeur d'une action accomplie durant les 11 autres mois de l'année. Et bien sûr, parce que dans ce mois, il y a la nuit du destin. Cette fameuse nuit qui doit être recherchée par chaque musulman. Et également durant ce mois, les anges, ils demandent énormément pardon à Allah pour chaque musulman, chaque jeûneur, et principalement le jeûneur qui se lève pour le repas du matin de suhur, qu'on appelle ici le sihri. Imaginez les anges, les meilleurs des créatures, la ya'asuna Allah ma amarahum, des créatures qui jamais ne désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelques semaines, on expliquait la description du arsh d'Allah. On expliquait la description du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala avec pour objectif de comprendre, d'essayer de réaliser la grandeur d'Allah azza wa jal par le biais de la grandeur de ses créatures. Prendre conscience qu'Allah il est azim, Allah est grand, Allah est au-dessus de nous, Allah il est qawi, il est matin. En comprenant comment, subhanallah, les anges, les créatures que Allah Azza wa Jal a créées dans le monde de l'invisible, comment ils sont exceptionnels. Et on avait vu un hadith qui dit que depuis qu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur le trône, istawa al arsh, Allah Ta'ala a créé un ange qui depuis ce moment jusqu'au qiyamah reste en sijda, reste en prosternation devant Allah Azza wa Jal. Depuis qu'Allah s'est établi sur le trône, c'est-à-dire avant la création des cieux et de la terre, jusqu'au qiyamah, cet ange reste en position de sujda, de prosternation. Et le jour des comptes, Allah Azza wa Jal ordonnera à cet ange de se relever. Et lorsqu'il se relève, il dit quoi immédiatement ? Subhanak, ma abidnaka haqqa ibadatik. Oh Allah, toutes les puretés te reviennent. Certainement, on n'a pas fait ton adoration comme on aurait dû le faire. C'est-à-dire des créatures exceptionnelles qui ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal. Et ces créatures-là, durant ce mois béni, c'est eux qui font des doigts pour qu'Allah Ta'ala accorde son pardon à chaque musulman, à chaque musulmane. Donc on comprend que ce mois-là, mes chers frères et sœurs en islam, c'est vraiment le moment où il faut répondre présent. C'est vraiment le moment où il ne faut surtout pas louper, rater une seconde, ni un jour, ni un instant. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois avait dit aux sahaba, il a tenu à rappeler aux sahaba la venue de ce mois, ataakum ramadan sayyid ash-shuhur fa marhaban bihi wa ahla, que le mois de Ramadan maintenant est arrivé, c'est le sayyid, c'est le roi, le meilleur, le plus grand des mois, fa marhaban bihi wa ahla, qu'il soit le bienvenu. Les muhaddithin ils expliquent pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam rappelle la venue du mois de Ramadan. Il y a deux choses à travers deux versions du hadith. Dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce aux sahaba à peu près le même hadith, et à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ce qu'on appelle le targhib, encouragement, incitation à accomplir de bonnes actions. Il conclut le hadith en disant fa'addu fihi anfusakum khaira, ô sahaba, ô musulmans, faites le maximum de bonnes actions durant ce mois. Première version, après avoir cité la venue de ce mois et quelques vertus, le prophète sallam exhorte les compagnons à faire le maximum de bonnes actions, encouragement, targhib, incitation à faire de bonnes actions. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wasalam termine par un targhib, une mise en garde. Le prophète dit fa inna ash-shaqiy kull ash-shaqiy man hurima fihi rahmatullah. Attention mes chers compagnons, attention musulmans, le plus malheureux parmi les êtres humains durant ce mois, c'est celui qui se prive lui-même. Il se prive lui-même de la bénédiction de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la rahmat d'Allah est censée couvrir tout le monde. La rahmat d'Allah, on n'a pas besoin d'aller le chercher, la rahmat d'Allah, elle descend automatiquement durant ce mois. Donc celui qui n'a pas su ne serait-ce lever ses mains ou faire le moindre effort pour capter cette bénédiction, cette rahmat, c'est vraiment quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui, on pourrait dire, condamnable aussi. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas su différencier les autres mois de l'année de ce mois béni. Si quelqu'un se dit que jeûner, c'est juste changer les horaires de mes repas, Au lieu de prendre mon petit déjeuner à 7 heures, je le prends à 5 heures du matin. Et au lieu de... Et je loupe un repas le midi, ça me permettra de faire un régime peut-être, de perdre un peu de poids. Et au lieu de dîner à, je sais pas, à 20 heures, je prends mon repas à 18h30 ou à 19h. Celui qui, subhanallah, il se limite lui-même, hein, son jeûne, son ramadan, à un décalage des repas, des habitudes alimentaires, c'est ash-shaqiq ou l'ash-shaqiq. C'est l'homme le plus malheureux. L'homme condamnable également, parce qu'il n'a pas su puiser dans les trésors d'Allah durant ce mois béni. Donc, pour résumer, hein, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons que le mu'min se doit de se préparer. C'est pour ça qu'on a mis comme intitulé cette intervention comment préparer au mieux le ramadan dans la mosquée et dans les maisons. Parce que très souvent on se dit que la pratique du dîn, hein, ça s'illustre dans la mosquée. Certes, celui qui vient à la masjid, celui qui fait la salat en congrégation, celui qui peut être présent en salat ou tarawih, ce sont là des grandes chances de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le ramadan doit être vécu avec la même intensité à la maison. Ce qui serait profondément injuste, ce serait que le monsieur vienne à la masjid, il écoute les programmes de préparation du mois béni et il le retient, il ne raconte pas, il n'explique pas à son épouse, et donc lui va s'appliquer pour le jeûne, mais son épouse elle va jeûner, comme on dit, le carême traditionnel, sans comprendre le pourquoi, le comment, la raison, la sagesse, l'objectif, la philosophie. Et que le monsieur, lui, il va comprendre qu'il faut faire des qiyamoulay, il faut faire tel effort, et sa femme, son travail de ramadan se limitera à la préparation du sehri et la préparation du iftar, afin que le mari et les enfants ils aient, alhamdulillah, tout ce qu'il faut à manger. Ce serait profondément injuste. Alors qu'Allah dit au Coran, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, فَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. N'importe quel musulman ou musulmane, traduction approximative, n'importe quel musulman ou musulmane qui accomplit une bonne action avec la foi, Allah Ta'ala lui garantit une vie remplie de bonté et de quiétude, remplie de sakina, de tranquillité de cœur. Mais les mufassirin, ils expliquent que, à travers ce verset, nous voyons l'égalité qu'il y a entre l'homme et la femme de la religion. Hein, dans la société française occidentale, on a dû attendre des siècles et des siècles pour reconnaître l'égalité, la parité qu'il y a entre l'homme et la femme, le droit de vote ou l'accès au travail, etc., etc. On a dû attendre le 18e voire le 19e siècle, voire plus tard parfois même, pour que l'homme et la femme soient considérés comme étant égaux. Mais pour Allah Azza wa Jal, l'homme et la femme sont égaux devant Allah Azza wa Jal. Dans l'accomplissement des bonnes œuvres, que ce soit un monsieur ou une dame qui accomplit une bonne action ou qui sait s'éloigner d'un haram, Allah Ta'ala les rétribue de la même façon. Allah Ta'ala ne distingue pas un monsieur d'une dame. Donc ce qu'Allah attend d'un homme durant le mois de Ramadan, c'est exactement la même chose qu'il attend d'une femme durant le mois de Ramadan. Parce que le verset dit bien, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, oh vous qui avez la foi. Et quand on dit ya ayyuhalladhina amanu, ça englobe ins et djinn. Et quand on dit ins, c'est les messieurs et également les dames. Donc nous, la compréhension que nous avons du Ramadan, il est absolument nécessaire de le transmettre également à nos épouses, nos mères, nos sœurs et nos filles à la maison. Le prophète alayhi salatu wa sallam, juste pour rappeler quelques bienfaits de ce mois, et puis on va voir, hein, vraiment comment se préparer au mieux, comment psychologiquement et spirituellement je me prépare dès maintenant. On est le 12 ou le 11 ou le 12 Sha'ban, c'est dès maintenant, hein, on va pas dire qu'il est déjà trop tard, que c'était depuis le début de Rajab qu'il fallait se préparer, non. Il est encore temps qu'une personne se fixe trois objectifs. Et il y a trois actions à faire, idéalement, hein, ce n'est pas une sunna, une obligation, mais il y a trois conseils que les savants nous donnent à faire, donc en préparation de ce mois. Alors le Prophète sallam dit une fois, c'est un hadith exceptionnel, dit que Atakum shahru Ramadan, le mois est venu, shahru khayrin wa baraka, un mois rempli de bienfaits, un mois rempli de bénédictions. Si le prophète alayhi salatu wassalam insiste sur ces termes, que c'est là un mois de bienfaits et de bénédictions, c'est que depuis, quand on dit la vision de la lune du premier ramadan jusqu'à la dernière seconde du 29e ou le 30e ramadan, il y a une quantité de bienfaits, de bénédictions qui descendent, c'est incomparable avec les autres mois de l'année. Allah Ta'ala vous couvre, fihi bir-rahma. Allah Ta'ala couvre la umma de sa rahma. Maintenant, il faut, comme on a dit, savoir puiser, rechercher cette rahma. Allah, il envoie. Mais à nous de faire le minimum d'efforts pour obtenir ce rahma. Wa yaghfiru fihi al-khataya. C'est le mois où Allah Azza wa Jal pardonne. Si quelqu'un a des choses à se reprocher, si quelqu'un a des péchés cumulés durant l'année, si quelqu'un sait pertinemment qu'il a fait telle erreur et qu'il regrette et qu'il aimerait demander pardon à Allah, bien sûr le pardon d'Allah, hein, il est accessible n'importe quand, mais que ce mu'min sache que ce mois, c'est le mois propice pour demander pardon. Et c'est le mois propice également pour prendre des résolutions. Parce que demander pardon, tout le monde le fera. Mais celui qui demande pardon et qui prend des résolutions, lui, il sera pardonné. C'est ce qu'on appelle At-tawba an nasuha. Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Le repentir sincère, c'est quoi? C'est quand, un, je prends conscience de mon péché. Être conscient qu'on a fait une erreur. Déjà, le fait de reconnaître, c'est réaliser que je suis makhlouq et je suis une créature et j'ai désobéi au Khaliq. J'ai désobéi au Créateur. Donc, reconnaître qui est au-dessus de moi et quelle est ma position par rapport à lui. La deuxième étape, c'est demander le tawbah. Mais ça, tout le monde le fait avec plus ou moins d'intensité, avec plus ou moins de présence de iman, j'allais dire de présence d'esprit, de présence de foi. Vous savez, quand un mu'min, hein, il a passé plusieurs jours, déjà, il a déjà cumulé plusieurs jours de jeûne, il a fait beaucoup de sacrifices, déjà, quand la foi augmente, la qualité du doua augmente. Quand la foi augmente, la qualité du istighfar augmente. Un istighfar que je fais après Namaz Zohor un samedi, alors que je suis harassé, fatigué, je sors du boulot, hein, je vais en week-end, je dois préparer, je dois aller à tel endroit, le istighfar que je demande très rapidement, et le istighfar que le mu'min fait en se levant une nuit du Ramadan, Qiyamul Layl, pendant le tahajjud, et il demande pardon pour un péché, vous êtes tous conscients, nous sommes tous conscients que il n'y a pas photo, excusez-moi, entre ces deux istighfar. Parce qu'il y a dans le istighfar de Ramadan un sacrifice. Le sacrifice, hein, de se réveiller pour le Qiyamul Layl. Le sacrifice des efforts, de tout ce qu'on a fait comme effort jusqu'à ce jour-là du Ramadan. Le 1, 2, 3, 4, une dizaine de jours qu'on a déjà passé en état de jeûne. Donc, quand la foi augmente, quand les sacrifices sont faits pour la religion, le degré de istighfar est différent. Quand on va demander pardon à Allah, le cœur sera présent. Et là, il y a des fois où on atteint des degrés de foi, de spiritualité, où les larmes coulent et que le mu'min ressent des frissons. Il ressent la présence de son Créateur et il reconnaît. Et il se trouve devant Allah comme un petit enfant qui se trouve devant ses parents. La métaphore est à des années-lumière, mais il reconnaît sa, en guillemets, sa bêtise. Et il sait que le seul qu'il entend à ce moment, c'est Allah. Le seul qui le voit à ce moment, c'est Allah. Et le seul qui sait avec exactitude qu'est-ce qu'il a accompli comme péché, c'est Allah. Un homme peut faire un péché sans que sa femme ne le sache. Une femme peut faire un péché sans que son mari ne le sache. Un enfant peut cacher ses péchés à ses parents, et ainsi de suite. Un élève peut cacher ses erreurs, sa tricherie ou ses manquements, hein, à son professeur. Mais personne ne peut cacher, ne serait-ce qu'une mauvaise pensée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à ce moment de Ramadan, de le tahajjud, je demande pardon, je suis conscient également que le seul qui sait quel péché j'ai accompli, c'est Allah. Et le seul qui connaît quel est mon degré de sincérité quand je demande pardon à Allah, est-ce que dans ma tête, je demande pardon avec l'intention ferme de ne plus jamais recommencer, ou alors je demande pardon, hein, le pardon syndical, comme tout le monde le fait, et je projette déjà mes plans pour l'après Ramadan, Allah seul le sait. On dit qu'aucun être humain n'est en droit de juger son prochain. Personne n'a en droit de dire que lui, dans son cœur, il y a de bonnes choses, lui, il y a de mauvaises choses. Non, ça, c'est des choses qui appartiennent à Allah. Allah seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. C'est Allah qui est aqrabu ilayhi min hablil warid, qui est plus proche de nous de notre veine, la veine jugulaire. C'est Allah qui connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc, le istighfar qu'on demande, qu'on fait, qu'on formule durant ce mois, c'est un istighfar qui dépasse des années-lumière n'importe quel istighfar qu'on va faire durant les autres mois de l'année. Et le prophète sallam rajoute wa yastajibu fihi ad-du'a. Durant ce mois, Allah ta'ala exauce les du'a. Imaginez lorsqu'un mu'min a passé une journée alors qu'il était au travail, hein, il a respecté les recommandations d'Allah à propos du jeûne, et au moment de jeûner, il va rompre son carême et il lève les mains, il demande à Allah certaines choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà annoncé que parmi les du'as qui sont exaucés, acceptés par Allah, du'a as-sa'im 'inda fitri, ou comme a dit alayhi salatu wa sallam, l'invocation du jeûneur au moment de rompre le jeûne. Donc le du'a qui va demander à ce moment sera acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres occasions, on expliquera inshallah par la suite comment Allah exauce un doigt. Parfois Allah peut vous donner ce que vous demandez immédiatement. Il concrétise ma formulation. Mais il y a des fois Allah Azza wa Jal sait que cette demande-là n'est pas adéquate. Cette demande n'est pas ce qui est le mieux pour moi. Et donc Allah Ta'ala décide de m'accorder autre chose. Ou alors Allah Ta'ala décide en compensation. Il ne va pas nous accorder ce qu'on a demandé tout de suite. Mais Allah Ta'ala en compensation va nous protéger d'un bala. Allah Ta'ala nous protège d'un malheur. Ça aussi c'est une forme d'acceptation de doua. Ou alors, le dernier cas de figure, le mu'min retrouve les doua'as en montagne de thawab de hasanat, le jour des comptes. Le prophète explique que le jour du qiyama, le jour des comptes, un mu'min, un musulman, va voir des montagnes de bonnes actions. Et là il va essayer d'être le plus, il va faire le grand honnête. Et il va dire que c'est pas moi ça. Parce que le jour de la résurrection, bon, ça c'est d'autres sujets, Allah va donner à chaque être humain une mémoire qui lui permettra de reconnaître, de retrouver ses actions bonnes et mauvaises depuis qu'il était baligh jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que quand il voit une bonne action, il sait exactement quand il l'a fait, à quel moment. Quand il voit un péché, il sait exactement quand il l'a fait, à quel moment. Si quelqu'un un jour nous reproche que tu as fait telle bêtise le 2 mai 1981, il dit quoi ? 1981, ça nous ramène à subhanallah 25 ans, 26 ans, mais personne ne se souvient de ça. Il faut être malade. Quelqu'un qui se rappelle de ça, c'est un psychopathe. C'est quelqu'un qui aime ses péchés, qui aime ses erreurs. Comment il peut se rappeler ? Mais le jour des comptes, la mémoire, le cerveau humain, il trouve une capacité qui lui permet de retracer tout ce qu'il accomplit depuis qu'il était baligh jusqu'à la mort. Et également, il est aidé par son livre. Quand l'Allah fait remettre les livres à chaque personne, il demande Iqra kitab al-kafa bi nafsika al-yawm 'alayka hasiba, que chaque personne lise son livret de compte et que chaque personne fasse lui-même son jugement. Il voit tout ce qu'il a accompli depuis qu'il était baligh jusqu'à sa mort. Donc, ce jour-là, le mu'min, il va voir des, comme on a dit, des jibal, des montagnes de hasanat. Il va dire, oh Allah, ces actions-là ne m'appartiennent pas. Il va être honnête. Il va dire que ces actions-là, je ne les reconnais pas. Et Allah Ta'ala va lui rappeler que non, ça c'était les invocations, les du'as que tu avais fait dans ce monde et qui n'ont pas été exaucés. Qu'Allah ne t'a pas accordé directement. Et donc, aucun doua n'est perdu. Ça, on doit être bien conscient. Jamais un musulman ne lève les mains, demande à Allah quelque chose. Jamais Allah Ta'ala ne laisse le mu'min rebaisser ses mains, fardées, sifru al-yadayn, avec zéro acquis. Jamais de la vie. Allah accorde toujours quelque chose. Comme on l'a dit, les quatre possibilités. Et la dernière possibilité, le hadith qu'on a cité, ce mu'min, lorsqu'il va voir ça, il aura le souhait le jour des comptes que si seulement aucune de mes invocations n'avait été acceptée. Il souhaiterait que aucune de ces invocations n'avait été acceptée de ce dunya afin de les retrouver en hasanat, le jour des comptes. Parce que plus on a de bonnes actions, plus la balance pèse lourd et plus on a des degrés élevés dans le paradis. Donc, le prophète dit également وَيَسْتَجِبُ فِيهِ الدُّعَى. Allah Ta'ala exauce les vœux, les du'as, durant ce mois. وَيَنْظُرُ فِيهِ إِلَى تَنَافُسِكُمْ. Et Allah Ta'ala regarde comment les êtres humains, les musulmans, se dépassent mutuellement dans l'accomplissement de bonnes actions. Pas par ostentation, c'est qu'on est motivé, c'est de la motivation. Et il voit que lui, il se réveille à 3h30 du matin, il fait le qiyam al-layl, il dit, ben, si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire, à moins que moi. S'il peut se réveiller à 3h30, faire 1h30 de tahajjud, 30 minutes de doua, et puis prendre son suhoor, son sehri, ben je peux faire autant. Il va essayer de faire plus d'efforts. Comme on l'a dit, pas par ostentation, mais pour s'encourager mutuellement dans les bonnes actions. Allah aime ça. Allah aime yanzuru ila tanafusikum. Allah aime lorsque les musulmans essaient de se dépasser mutuellement dans l'accomplissement des bonnes actions. Wa yubahi bikumul malaika. Et Allah Ta'ala est fier de nous auprès des anges. Allah Ta'ala vante ces êtres humains, ces musulmans auprès des anges. Pourquoi ? Vous savez que lorsque l'être humain a été créé, les anges ne comprenaient pas. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Comme il se parle, il y a la Kutarabi, on verra par la suite. Créer ce genre de race qui va semer le désordre, qui va faire couler le sang. Les anges ne comprennent pas. Alors que nous, on est là, on ne fait aucun péché, on ne désobéit pas à Allah. Alors que eux, ces makhlouqas, les êtres humains, ils ont ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? La possibilité de choisir tout simplement, entre le bien et le mal. Alors que l'ange, par définition, il a dit, la yasun Allah ma amarahum. Il ne sait pas c'est quoi désobéir à Allah. Un ange ne sait pas c'est quoi désobéir à Allah. Il ne sait pas c'est quoi faire un péché. Tandis que l'être humain, il peut choisir entre le bien et le mal. Donc, Allah Ta'ala est fier de nous. Il est fier de nous auprès des anges. Il rappelle aux anges, c'est l'opinion, le commentaire de Muhaddithin, comment lorsqu'Allah Ta'ala nous a créés, les anges doutaient de l'intérêt de notre création. Enfin, ils se disaient qu'ils vont faire des erreurs. Et Allah Ta'ala montre à ces anges que regardez, ces êtres humains, avec leur pulsion, leur passion, ils savent les contrôler intégralement pour rechercher mon contentement. Donc, ce sont là quelques vertus, quelques hadiths que le prophète alayhi salatu wassalam a cité aux sahaba. Il y en a beaucoup d'autres concernant la venue, l'approche du Ramadan. Prise de conscience, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce mois pour que dès maintenant, je me prépare et surtout, je ne rate pas la moindre seconde, le moindre jour quand le Ramadan va débuter. Alors, on est tous conscients qu'on doit préparer ce mois. On doit préparer ce mois. Et malheureusement, à La Réunion, je pense qu'à l'île Maurice ou dans pas mal d'endroits, hein, quand on parle de préparer le Ramadan, ça rime très souvent avec préparation culinaire. Quand on dit que le Ramadan arrive, là on se fait du souci. Est-ce que ma commande de samoussa est prête? Est-ce qu'on a assez blanc de poulet? Est-ce qu'il y a assez par? Est-ce qu'il y a ici telle chose, telle chose? Je me souviens une fois, hein, il y a 2 ou 3 ans, ici même à Montreuil, on avait dit que, subhanallah, tellement les gens, les musulmans préparent le Ramadan, que j'ai fait tous les magasins de musulmans, les boucheries, il n'y a plus 1 kilo de blanc de poulet disponible. On avait dit ça. Et j'ai reçu un message le soir, Manas, si vous avez besoin de blanc de poulet, je peux vous faire un prix. On m'a fait une proposition, si on a besoin de... J'ai dit que non, le but c'était pas ça. Je ne faisais pas passer un message. Je ne ferais pas un vaillant pour dire que j'ai besoin d'acheter 1 kilo de blanc de poulet. Mais pour qu'on comprenne bien que très souvent, quand on parle de préparation du Ramadan, ça rime avec préparation du iftar. Le Ramadan n'a pas été instauré pour le rompre, subhanallah. C'est comme si que je jeûne pour rompre, mieux rompre le jeûne. Donc on se focalise sur la rupture, varier le maximum de gâteaux, et découvrir de nouvelles recettes, hein, d'Angleterre, d'Afrique du Sud, etc., etc., pour que la famille soit encore plus heureuse, hein, plus heureuse lorsqu'ils vont rompre le jeûne. Wallah, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de développer la spiritualité. Alors, quels sont concrètement, hein, quelques points qu'on peut appliquer dès maintenant, hein, c'est pas des actions réservées à des saints ou à des gens qui, lorsqu'ils prient, le pied ne touche pas à terre, etc., etc. C'est des actions accessibles à chaque musulman ici présent. La première chose, prendre des bonnes résolutions. Dès maintenant, dès le 16, le je sais pas on est le combien, le 12, le 11 Shaban, prendre de bonnes résolutions de repentir sincère durant ce mois. Et comme on dit tout à l'heure, Allah Ta'ala pardonne toute l'année. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatum rahmatillah. Jamais de jamais un musulman ne doit douter ou ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah, car inna Allah yaghfiru dhunuba complet jami'an. Quand Allah il pardonne, Allah il fait, na'oud billah, il fait pas dans le détail, il peut pardonner l'intégralité des péchés d'un être humain parce que Allah il est qui lui? Allah il est innahu huwal ghafur rahim. Et c'est lui Allah qui est le clément, qui est le pardonneur et qui est rempli de bénédictions, qui accorde sa rahma aux êtres humains. Et dans le hadith, Qasam dit, et il raconte le hadith Qudsi, qu'Allah a dit que même si l'être humain se présente à moi avec autant de péchés qu'il y a d'écume dans les mers, autant de péchés qu'il y a de gouttes de pluie, ou autant de péchés qu'il y a de grains de sable dans le désert, si quelqu'un se retourne auprès d'Allah avec un cœur sincère, Allah Azza wa Jal est capable de tout pardonner, sans exception. Un être humain ne pourra pas tout pardonner. Votre propre père, votre propre maman, votre propre épouse, vos propres enfants, si vous leur avez fait du tort, ou abusé, ou volé des biens, ou détourné, je ne sais pas, des erreurs humaines, il se peut qu'une personne ne puisse pas tout pardonner. Ou alors même si la personne pardonne, mais comme il dit en créole, il garde quelque chose de le cœur. Même si j'ai pardonné à Youssouf pour tout ce qu'il m'a fait, mais quand je le vois, je me détourne. J'arrive pas à le faire salam. J'arrive pas à le fréquenter parce que on a été marqué. On a été profondément touché parce que quelqu'un nous a fait du tort. Mais Allah Azza wa Jal, quand il décide de pardonner, un, il pardonne l'intégralité des péchés. Et deuxièmement, Allah Azza wa Jal vous considère comme une personne qui vient de naître, comme quelqu'un qui on ne garde pas un passé auprès d'Allah. Le casier judiciaire, quand Allah Ta'ala, hein, il le nettoie, c'est qu'il n'y a plus rien. Même aux yeux de la loi, quelqu'un a purgé sa peine, comme on dit, mais quand il ressort, il y a toujours un casier qui vous suit jusqu'à la mort. Mais quand Allah décide de pardonner, Allah ne garde aucune trace des erreurs, et Allah ordonne même aux anges d'effacer le livre de compte. Allah ordonne à la terre, l'endroit où le péché a été accompli, d'oublier le péché qui a été accompli. Donc la première bonne résolution, c'est: je me dis que durant ce mois, je vais tous les jours demander tawbah à Allah. Mais c'est pas un tawbah général: oh Allah, pardon, Allah m'a fait les mu'minines, les mu'minates, les muslimines, les muslimates. Oui, des pardons généraux, d'accord, mais à mon niveau, un pardon ciblé. C'est quoi un pardon ciblé? Qui se connaît mieux que soi-même? On a dit, chaque musulman se connaît. Chaque personne sait quels sont ses défauts. Et il n'y a pas un mu'min, il n'y a pas un musulman qui peut se dire que moi, je suis clean. Impossible. Il n'y a pas une personne qui peut se dire que moi, je ne fais pas de péché. Parce que je suis grand bas, parce que je suis joli kafni, parce que je suis hafez, Quran, je suis alim, je suis mufti, je viens à la masjid. N'importe quel mu'min, n'importe quelle personne qu'on appelle être humain, a des faiblesses. Et il ne peut pas se passer des jours ou même une journée sans qu'on accomplisse des péchés. Et chacun sait quelles sont ses erreurs. Et chaque musulman sait quels sont les péchés qui sont les obstacles qui l'empêchent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, ils savent que leur grande faiblesse, c'est l'argent, les relations, tout ce qui a trait à la finance, d'accord. Si une personne voit ça dans notre quartier, on explique, parce que d'accord, il voit qu'il y a l'euro million, il y a telle chose à gagner, il peut pas s'en empêcher. Hein, il y a des gens qui disent, mais pourquoi parler de ça? Mais si vous saviez. Si vous savez les réalités, il y a 5-6 ans de cela, ou 10 ans, allez, on va dire, on est gentil, on ne pensait même pas qu'un jour un musulman puisse boire de l'alcool, un musulman puisse jouer au jeu de hasard, un musulman puisse faire telle chose. Mais de nos jours, Allah musta'an, ces hurumat, ces interdits sont devenus des choses banales. C'est comme si que c'est devenu une coutume, on est français, on est dans une société, et ça fait partie des traditions. Allah musta'an. Donc, il y a des gens, le problème, c'est la relation avec l'argent. Ils ont besoin d'une belle voiture. Pour eux, l'objectif le plus important, c'est d'avoir cette voiture. Je veux telle maison, je dois l'avoir, quels que soient les moyens. Donc je vais contracter un prêt avec une banque ou alors je ne sais quoi, avec de l'intérêt, bien sûr, avec du riba. Mais l'objectif, c'est que j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai telle chose, où je puisse offrir à mon enfant telle chose, je puisse céder, léguer à mon enfant un appartement parce qu'il va se marier, et puis Allah il pardonne ça. Je fais namaz, moi, arrivé le mois de Ramadan, je donne de l'argent à la masjid. Oui, il y a des gens, leur grand problème, c'est la relation avec l'argent. Donc pour lui, il va faire de bonnes actions, et par le biais de ces bonnes actions-là, c'est comme si qu'il a fait l'impasse sur le riba. Il y a d'autres personnes, leur problème, leur grand problème, c'est al-jins. Al-jins en arabe, c'est quoi? C'est tout ce qui, la perversité, voilà, la perversité. Et le gros problème de nos jours, c'est quoi? C'est le cybersexe. Ce qui n'existait pas avant. Et très souvent, quand on parle de ça, on pense aux jeunes. De 18 ans, 19 ans, il est en train de, voilà, quand papa, maman, il dort, il va sur Internet, ou il va sur CanalSat, je sais pas quoi, et il regarde ce qu'il veut regarder. Donc il regarde ce qui est haram, tout ce qui est pas bien, d'accord, il regarde. Mais malheureusement, ça peut toucher différentes catégories de personnes. Ça peut toucher une personne de 40 ans, 50 ans, qui à son époque n'avait pas tout ça, et que malheureusement il découvre Internet, et il découvre les mauvais côtés de l'Internet aussi, et il se retrouve comme un gamin en train de regarder, en train de mater ce qu'il ne doit pas regarder. Donc ça peut être, ça c'est un obstacle entre nous et Allah. Ça, c'est un obstacle entre nous et Allah. Parce que pour avoir une relation clean entre le mu'min et Allah subhanahu wa ta'ala, il faut surtout pas qu'il y ait des péchés qui se répètent. Autrement, on devient un fasiq. Le fasiq, c'est quoi? C'est qui? C'est le pécheur endurci. Celui qui cumule les péchés, il ne demande pas pardon. Il fait lundi, mardi, mercredi, il le fait en permanence, ça devient son péché. C'est un péché envahissant. Et quand on a un péché envahissant, on ne peut pas se rapprocher correctement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, chaque personne, il sait exactement quel est l'obstacle, qu'est-ce qui l'éloigne d'Allah azza wa jal, et donc son tawbah doit être ciblé. Et à quel moment demander tawbah? Au moment de suhur, au moment de tahajjud, quand je me lève une heure avant le qiyam al-layl, avant le suhur, le repas du matin, je fais mon tahajjud. Un, je demande pardon, comme on a dit tout à l'heure, regretter le péché et faire l'intention de ne plus jamais l'accomplir. Al-azm, ala azm al-awda, faire l'intention ferme de ne plus retourner vers ce péché et prendre les précautions aussi. Si mon péché c'était quoi? C'était aller en boîte de nuit les samedis soirs, d'accord? Et je sais que quand je fréquente telle personne, c'est eux qui m'amènent en boîte de nuit. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'éloigner de ces personnes. Qurana as-su. Je dois m'éloigner des personnes qui m'amènent vers le péché. Je dois choisir d'autres amis. Ou alors arriver le samedi, si je sais que ma style lève à fond, nagratel qui est pas tenir dans la maison, ben le samedi, je vais ailleurs. Je vais en famille ou je reste à la masjid ou je fais autre chose. Mais je fais en sorte de ne pas être proche des endroits où il y a le fasad, où il y a le péché, ni de fréquenter les... Bref, prendre les précautions. Si mon problème c'est l'alcool, je fais en sorte de ne plus fréquenter ces amis qui m'invitent vers la boisson. Je fais en sorte de ne plus fréquenter les lieux où la boisson est vendue, etc., etc. Donc, je demande pardon avec les trois conditions pour que le tawbah soit considéré comme tawbah al-nasuha. Et également, je demande à Allah de l'aide. Parce que demander pardon c'est quelque chose, mais demander à Allah de l'aide, oh Allah aidez-moi à m'en sortir, oh Allah je n'arrive pas à me détacher de tel péché, oh Allah c'est toi seul qui peux me donner la force spirituelle pour lutter contre Shaitan et pour que j'arrête ce péché. C'est comme ça que le mu'min doit demander tawbah. Cibler, le tawbah doit être ciblé sur les péchés qui nous empêchent de nous rapprocher d'Allah, les péchés qui sont récurrents. Demandez tawbah comme on a dit, et surtout demandez à Allah al-aoun de nous aider et à tawfir pour rester éloigné de ces péchés. Deuxième résolution, faire l'intention dès maintenant de faire un maximum de bonnes actions. Alors les vertus des bonnes actions, on a pris un peu plus de temps sur d'autres sujets, on va peut-être aborder durant le mois inshallah, mais d'une manière générale le professeur m'a dit que amal as-sa'im mudha'af, que n'importe quelle bonne action que le jeûneur accomplit, les récompenses sont multipliées. Et quand on lit les versets hein, où on décrit les personnes, les mu'mines, le jour des comptes, où le musulman va se retourner vers sa femme, vers sa maman, vers son papa, vers ses enfants, pour obtenir une bonne action. Parce que il voit son livre de comptes et c'est presque égalité, balotage. Il a dit, il sait qu'il a besoin de quelques bonnes actions pour que les hasanats prennent le dessus. D'accord? Et là, il va voir un proche, une maman, un papa, et personne le jour de compte n'est prêt à aider son prochain. Yo, mala yanfa'u, malum wala banun. Rien du tout. Niveau bien, niveau enfants, personne. D'accord? Et donc, imaginez ce jour que vous avez accompli des bonnes actions durant ce mois et que vous vous retrouvez avec des millions de hasana. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, comprendre, mais vraiment comprendre la philosophie du jeûne. Comprendre que le Ramadan est une médersa, une madrasa. La Ramadan est une école. Tout comme la salat est une école. On va terminer avec ces mots. L'école de la salat, c'est quoi? Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat nous éloigne de la turpitude et du blâme, c'est-à-dire des péchés. De quelle manière? Quand un musulman, il se met en face de la qibla, il fait le takbir, il dit Allahu Akbar, il contrôle ses paroles, il contrôle ses gestes, parce que s'il fait trop de gestes, le namaz est annulé. Il contrôle son regard, il regarde par terre, il ne va pas regarder les gens, et il contrôle surtout ses pensées. Dire que la salat est une école de concentration, est une école de soumission. Quand je fais 10 minutes ma salat, je suis soumis, mais tout mon corps et mon âme, mon esprit est soumis à Allah Azza wa Jal. Ça c'est l'école de la salat. L'école du Ramadan, c'est à peu près le même principe, mais ça s'étend sur une journée. Contrôler l'intégralité de ses sens pour Allah Azza wa Jal. Contrôler son nafs, son ego, ses envies uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et à travers ce cheminement, je comprends comment est-ce que l'abstinence de nourriture et de boisson peut me permettre de rester éloigné des péchés. Manger, boire, c'est pas des péchés en temps normal. Ça devient des péchés du suhur jusqu'au iftar. Maintenant, si je suis capable de m'éloigner de ces actions qui, à la base, ne sont pas blâmables, mimbab aoula, il est tout à fait logique que je suis capable, je peux m'éloigner de ce qui est détesté par Allah. Le zina, l'adultère, le vol, la fornication, le riba, le bohatan, etc., etc. Ça, Allah les déteste toute l'année. Donc si je peux m'éloigner de quelque chose qui n'est pas blâmable toute l'année, il est de mon devoir de m'éloigner de ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également chose importante, donc ça c'est faire le niyat sincère de rester éloigné des péchés et comprendre le cheminement et la relation qu'il y a entre l'abstinence de la boisson et de la nourriture et la possibilité éveillée, la prise de conscience dans le cœur de chaque être humain que je suis capable de m'éloigner du haram, de ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier point, ne pas hésiter à demander, à poser des questions aux ulama. Des questions concernant bien sûr les masa'il du jeûne, qui doit jeûner, hein, une femme qui attend un bébé, une femme qui allait, etc. Est-ce que telle chose annule le jeûne? Est-ce que si j'ai fait le boudou, j'ai avalé de l'eau sans faire exprès, ça annule le jeûne? Est-ce que si j'ai ouvert mon frigidaire, j'ai bu une gorgée d'eau, un peu d'eau glacée, est-ce que mon karma était... Bref, les masa'il, on appelle les ahkam du fiqh, ça bien sûr les savants sont là, mais aller un peu plus loin. Demander aux ulama c'est quoi le vrai jeûne et essayer de développer le jeûne. Les ulama disent que quand un musulman jeûne, c'est son cœur également qui jeûne. Le jeûne du cœur, c'est quoi? C'est enlever du cœur l'orgueil, tout ce qui est mauvais, toutes les maladies spirituelles, la jalousie, les mauvaises pensées. Ça, c'est un cœur qui jeûne. Quand je vois mon prochain, quand je suis en état de jeûne, je ne dois pas tout d'abord voir ses défauts. Je ne dois pas me rappeler comme un disque dur tout ce qu'il m'a fait depuis 1980 et donc quand je lui fais salam, c'est un salam furtif et dans mon cœur il y a plein de haine et d'orgueil face à cette personne. Non, fais en sorte que mon cœur soit pur durant ce mois. Quand je jeûne, je fais en sorte que ma langue jeûne. Vous savez, le prophète m'a dit que وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُّهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. Il a dit la chose qui précipite le plus facilement, le plus rapidement un musulman dans les abîmes de l'enfer, c'est le résultat de leur parole. Un riba, une médisance, une calomnie, colporter des mauvaises choses, ça c'est des choses qui peuvent nous précipiter dans la colère d'Allah et nous précipiter vers l'enfer. Donc quand je jeûne, je fais en sorte de contrôler mes paroles. Ça c'est très important. Vous connaissez l'histoire des trois dames qui ont vomi, elles avaient vomi de la nourriture, de la chair humaine parce qu'elles ont fait le riba. Ça nous fait bien comprendre que jeûner, certes, c'est important, on respecte le halal, le haram, les règles de jurisprudence, mais en même temps, on doit faire le maximum pour contrôler ses paroles. Il est mieux de rester silencieux. Si on sait que quand on ouvre la bouche, on dit des bêtises, il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, c'est souvent pour dire quelque chose de stupide ou de bête et tout. Dans ça, on parle le moins possible. Et si on ouvre la bouche, c'est pour le dhikrullah. On essaie de faire le maximum de dhikrullah ou des paroles qui sont constructives et profitables. Et si je peux me contrôler ma langue durant un mois, ben vous savez, l'être humain, il a besoin de temps pour prendre les bonnes habitudes. Et si un mois, c'est suffisant pour qu'un mu'min prenne les bonnes habitudes. Donc, contrôler la langue, contrôler bien sûr le regard. Et à la réunion, Allah musta'an, si quelqu'un peut contrôler son regard, c'est quelqu'un qui vraiment, hein, il peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en conclusion, hein, faire attention aux pièges de shaitan. Les pièges de shaitan, vous savez, shaitan est là pour nous détourner du droit chemin. Faire en sorte de ne pas perdre de temps. Comme on a dit tout à l'heure, imaginez, vous savez, les deux moments les plus importants du jeûne, c'est le sehri et le iftar. Parce que le sehri, au moment du suhur, il y a des anges qui sont là, qui demandent tawbah à Allah pour nous. Ça, on a vu tout à l'heure. Maintenant, imaginez qu'à ce moment-là, mon épouse, ma maman, ma sœur, ma fille, ma tante, n'est pas sur le sajjada, sur le musalla, en train de demander tawbah, en train de demander des choses à Allah Azza wa Jal, mais elle est devant sa cuisinière, en train de cuisiner, en train de préparer les œufs, les omelettes, les crêpes, les je sais pas quoi, telle chose, où les anciens font le kari kichli, parce que depuis Dadan, ils mangent kari kichli le matin, le mois de Ramadan, vraiment c'est des choses atroces, c'est des tortures ignobles, hein, au moment de sehri. Et Wallah Musta'an, mon épouse, elle passe plus de temps devant la cuisinière que sur son tapis de prière. Ce serait là une grande injustice. Certes, une femme qui est au service de son mari, elle a des récompenses, il n'y a rien à dire. Mais attendez, ne soyons pas égoïstes. On peut bien se contenter d'un repas vite fait ou préparé la veille, mais ce moment-là, il faut être présent. Quand les anges sont là et demandent stirfan pour nous, c'est ce moment-là qu'il faut répondre présent. C'est le moment clé du Ramadan, quand on commence l'effort et on fait le niyyah de jeûner. Et l'autre moment clé, c'est le moment de rompre le jeûne. Alors ce moment de rompre le jeûne, moi, machiste et macho, je suis en train de faire doigts, beaucoup de doigts au moment de rompre le jeûne. En même temps, il fait dents, en même temps, il veille le samoussa, le katem, il commence par aller ensuite le katem, ensuite là le poulet, après il me retourne vers le goulgoulan. D'accord? Et il veille que mon camarade n'a pas les mêmes réflexes que moi. Bref, je fais mon doigt, Et ma femme, miskina, elle est devant le poêlon en train de retourner les samoussas. Un côté doré, l'autre côté moins doré. Et ces 30 jours passent comme ça. Mais dites-moi, alors que le prophète m'a dit qu'au moment de rompre le jeûne, doua du jeûneur est accepté, est exaucé. Mais comment je serais injuste d'imposer à ma femme de me dire, comme il rentre, il faut que le gâteau est chaud. S'il n'est pas chaud, ça va chauffer. Elle dit, pour moi, manger. Elle dit, il faut que les chauds, mais il ne faut pas que les froids, mais pas trop bouillantes non plus. Parce qu'il faut m'y manger vite et puis m'y prépare. Moi, mais ça t'a la vie. C'est-à-dire que si tu as fait les gâteaux après le Maghreb, ça va être trop chaud. Et si tu fais avant, ça va être froid. Donc, il faut faire au moment de casser carême. Quand Azan s'est donné, c'est là le moment où il faut retirer les samoussas, les cathètes, les tralala, du feu. C'est-à-dire, je prie mon épouse des rahamat et je suis directement responsable. Il ne faut pas oublier que la maman, c'est le moteur de la maison. La maman, vous savez, une femme vertueuse peut amener un mari vers le droit chemin. Tout comme une femme dévergondée peut détourner un homme pieux. Un homme peut être, subhanallah, j'allais dire excessivement, extrêmement pieux, passer une jeunesse dans l'adoration d'Allah, mais un jour, il a flashé sur une femme magnifique, bombastique, fantastique, tout vous voulez, et du jour au lendemain, il perd toutes ses valeurs. Il a vu, c'est le coup de foudre, d'accord ? Le coup de foudre qui fait qu'il est prêt à faire fi de toutes ses valeurs pour rejoindre cette personne qu'il trouve excessivement belle. C'est-à-dire, une femme dévergondée peut détourner un homme pieux, un homme qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Mais une femme vertueuse peut également ramener un homme égaré vers Allah. Imaginez-vous une femme, vous épousez une femme, la nuit de noces, après avoir fait ce qu'il fallait faire, elle se réveille à 3h du matin, elle prend son bain, bon, bien sûr, et elle ouvre son tapis de prière, elle commence à faire la salade. Alors moi, je ne vais pas rester là, me gratter le dos, le ventre, et regarder. Ben, normal qu'un homme se dise que t'es, ben, malgré le gros lot, c'est une femme pieuse, j'ai lieu de quoi, elle est en train de ronfler devant elle, ben, automatiquement, l'homme va essayer de faire comme elle. Vous savez, une femme vertueuse, c'est un cadeau, ce n'est pas le sujet du jour. Dans les Bayans de Nika, on dit que parmi les trésors de ce dunya, une femme vertueuse. Donc, si ma femme, je prive mon épouse de ses qualités, de ses bénédictions d'Allah, mais quand est-ce qu'elle va se ressourcer, dites-moi. Si ce n'est pas ce mois-là où elle va décoller spirituellement, et quand mon épouse, elle va cumuler les rahmats d'Allah, elle va être une femme vertueuse, sa piété va rejaillir sur toute la maison, bien plus que moi quand je suis pieux. Parce que moi, mes actes d'adoration en tant que monsieur, je les fais plutôt à la mosquée. Tandis que ma femme, elle le fait à la maison. Une femme qui fait la salat à la maison, une femme qui lit le Coran à la maison, qui enseigne le Coran, qui lit les hadiths pour les enfants, c'est une femme qui ouvre les portes de sa maison aux malaïka. Parce que quand il y a de bonnes choses dans la maison, les anges viennent. Et quand les anges viennent, qui ne vient plus? Les shayatines. Dans une maison, il y a la rahmat d'Allah qui descend en permanence. Faites ce que vous voulez. Essayez de faire du tort, essayez de faire la sorcellerie contre cette personne, essayez de jeter un sort. Il y a les anges qui sont là. Les mauvaises choses ne rentrent pas. Donc si la base, le secret, la clé, c'est l'épouse. Si ma femme devient pieuse, c'est le succès pour moi et pour mes enfants. Donc on doit laisser à nos épouses le temps que nous-mêmes nous consacrons durant ce mois et les deux moments clés, au moment de suhoor et au moment de rompre le jeûne. Et faire attention à ce classico de Shaytan, c'est quoi? Quand le Ramadan commence, il vous dit que ça, c'est les 10 premiers jours, c'est le toit d'échauffement. Parce que, et puis Shaytan vous dit que le plus important, ça on l'a déjà cité pas mal de fois, le plus important, c'est la dernière décade. Certes, la dernière décade est importante parce qu'on recherche la nuit du destin. Mais ça ne veut pas dire que le premier, le deuxième, le troisième Ramadan ne vaut rien. A'oud billah. Donc Shaytan va essayer de nous persuader que, ben voilà, on attend la dernière décade pour bien démarrer. Et ce pauvre musulman, il a perdu 20 jours à s'échauffer. Et arrivé à la dernière décade, il va se rappeler que le prophète a dit que chercher la nuit du destin dans les nuits impaires de la dernière décade. Donc il dit 20e ou dort, 21e ou dort pas, 22e ou dort, 23e ou dort pas, etc., etc. Et puis peu à peu, Shaitan dit attends. Rappelle-toi bien, en général, on dit que la nuit du destin, c'est le 27e, chose qui n'est pas fondée. Donc c'est le 27e. Et donc, au lieu de profiter de 30 nuits pour faire Qiyamul Layl, Tahajjud, Istighfar, 2 ou 3 heures de temps, il va consacrer une seule nuit. Et c'est un shaqi. C'est un homme qui a raté. Il a raté le coche, il a perdu, il n'a pas su prendre les bénédictions qui descendent constamment durant les 30 jours de l'année. Et puis également, hein, les ulama disent que durant ce mois, attention au gaspillage. Attention au gaspillage. Excusez-moi, on est un peu plus long parce que c'est le seul programme. Après, c'est fini. Après, on n'a plus d'autres occasions. Hein, ceux qui gaspillent, ce sont les frères de Shaytan. Donc, pas de gaspillage de nourriture. Quand on a faim, on a envie de manger beaucoup de choses. Vous savez, ne faites jamais, c'est un conseil personnel, ne faites jamais vos courses quand vous avez faim. Quand vous êtes en état de jeûne, vous, tout ce que vous voyez, assomme ça, mange ça. Et vous faites tout ça, on monte au plus jeune, on mange deux dattes, deux samoussa, un tivet, les roses. L'estomac, il y a trois quarts plein. On voit, il y a un festin, on ne voit pas le bout. On se dit, qu'est-ce que nous avons fait tout ça? Et on met au frigidaire, on réchauffe le lendemain, et le lendemain, on dit, ah, il passe pas, mange pas, manger la bec, on a carême. Et on jette. Voilà, on essaie de donner aux pauvres. En se disant que fait une bonne action de nos pauvres. Là, wallah. On donne aux pauvres ce qu'on mange tout de suite. La vraie sadaqa, c'est de donner à manger avant même que nous on consomme. Pas quand le samoussa fromage finit bien verdoyant, finit bien moisi, et que le biryani il ressemble à une paella ou il ressemble à autre chose qu'un biryani. C'est pas ça la sadaqa, c'est pas ça donner à manger aux gens. C'est donner à manger, vous avez des salatina qui expliquaient du quand vous avez cuisiné, vous voulez donner à manger et param, avant de servir à la famille, tirer une marquette, aller donner à quelqu'un. C'est ça le mujahada. On va dire mujahada, c'est un grand mot. Mais c'est ça le sacrifice. C'est ça la sadaqa. Quand on donne ce qu'on aime, on atteint al-bir, on atteint la piété. Donc on revient, on essaie de se raccrocher au sujet. Pas de gaspillage concernant la nourriture, concernant les choses, etc. etc. D'accord ? Et le respect de la masjid. Ça concerne plus, pardon, plus les messieurs. Le respect de la masjid, quand on vient à la tarawih, hein, il y a des quartiers qui ont bonne réputation et des quartiers qui ont moins bonne réputation. On entend, hein, dit que dans certaines masjids, hein, le imam fait tarawih, il y a des gens qui sont dans les saf, il y a des gens qui sont là, des gens, je ne monte pas du doigt, hein, je ne veux pas dire que c'est ici. Il y a des gens qui sont à droite, des gens qui sont à gauche, des personnes qui sont appuyées, sont en train de parler, les jambes étendues, etc. Ça, c'est un manque de respect pour la masjid. Je viens le tarawih, je fais, vous savez, le prophète m'a dit, on ne va pas parler de tout ça parce que ça c'est des sujets dans le ramadan. Le mu'min qui vient, qui fait sa prière de qiyamulel avec le imam hatta yansarif, jusqu'à ce que l'imam ait terminé, c'est-à-dire il reste jusqu'au bout, kutiba lahu qiyamulel. Allah Ta'ala lui accorde la récompense de la nuit passée en tahajjud. Subhanallah. Alors quel intérêt de venir et de s'asseoir et de parler, de discuter, de perturber la tenue de la salat? Ça c'est inadmissible, ça c'est pas possible, c'est incompatible avec la dévotion qui doit habiter le cœur du mu'min. Si je me sens capable de faire 20, alhamdoulilah, si je me dis qu'au bout de 8 j'en peux plus, je suis fatigué, d'accord, mais que le mu'min respecte la masjid. Quand on amène les enfants également à la masjid, au moment de rompre le jeûne, il faut qu'il y ait un travail, il faut qu'on éduque l'enfant, on doit briefer l'enfant, qu'il comprenne bien que c'est pas un terrain de jeu, on va pouvoir se concentrer, on essaie de faire droit, on essaie de faire comme les grands, etc., etc. Donc le respect de la masjid c'est essentiel, et surtout à la sortie de Tarawih, je ne sais pas en ce moment, la salat ça va être 8 heures je pense, 8 heures à peu près dans toutes les mosquées, d'accord, la Tarawih va se terminer on va dire à 9h15, 9h30 hein, à peu près, d'accord. Quand on sort de la masjid et qu'en face de nous il y a des habitations, comme c'est le cas précisément ici à Montreuil, on n'est pas dans Haram Sharif ici, hein. C'est pas Makkah, en face c'est pas Bin Daoud, hein, c'est HLM, hein, d'accord. Et donc quand on sort de la masjid, qu'on comprenne bien qu'il y a des gens qui dorment, des personnes qui ont d'autres pratiques, des gens d'autres confessions, et nous devons respecter ces personnes. Dans certains quartiers, moins ici, hein, mais dans d'autres quartiers, nous-mêmes on fait tarawih, on sait qu'à la sortie, c'est vraiment le bois, les gens parlent, discutent, et après il y a des voisins qui téléphonent à la police, qui portent plainte. C'est des choses, c'est des cas de figure qu'on ne veut pas voir. Le ramadan, c'est également respecter ses voisins, respecter son prochain. Le ramadan, c'est un condensé des qualités du musulman qu'on fait vivre durant ce mois. Donc, mes chers frères et sœurs, qu'Allah nous accepte de comprendre ces quelques paroles. Et nous demandons à Allah, le très haut, le très clément, hein, de balirna ramadan, de nous faire atteindre ce ramadan. Il nous reste à peu près deux semaines et demie, trois semaines, qu'on puisse vivre un ramadan en bonne santé. On est mouhtage de personnes, ni docteur, médicaments ou autre chose, où on peut jeûner. Il n'y a rien qui nous empêche de jeûner et qu'on puisse s'appliquer dans le jeûne. On puisse se concentrer, on puisse se fixer des objectifs. Et le secret oublié tout à l'heure, il y a trois papiers. Dès qu'on arrive à la maison, on va sur l'ordinateur, on imprime un dossier doc, un dossier Excel et un dossier, un autre comme vous voulez, d'accord. Un premier fichier, c'est mes objectifs. Qu'est-ce que je veux faire cette année? L'année dernière, j'ai fait 2 khatm al-Qur'an. Cette année, je vais faire 3. L'année dernière, je me réveillais 20 minutes avant le sehri et je faisais deux rakats de tahajjud, je disais qul ya ayyuhal kafirun qul allahu ahad et après le dernier salam j'étais devant mon plat. Cette année, au lieu de me réveiller 20 minutes avant la fin du suhoor, je me réveille, allez, 30 minutes, 40 minutes, je faisais deux rakats de tahajjud, j'essaie de faire quatre, bref, que chaque personne se fixe un objectif et que bien sûr qu'il progresse par rapport à l'année passée. Ça c'est le premier document imprimé. Deuxième document imprimé, les péchés. On va se limiter à deux. Les péchés qu'on accomplit. On doit faire un listing de nos erreurs quotidiennes et essayer d'y remédier, trouver la solution et cibler le tawbah par rapport à ces péchés. Et si Allah voit qu'un musulman fait des efforts pour se rapprocher de lui, Allah Ta'ala accepte le sacrifice de la personne et Allah l'accepte d'une manière générale. Allah nous accepte donc de la possibilité de concrétiser hein, les objectifs du Ramadan et que vraiment la'allakum tattaqoun, que à la fin du Ramadan Allah remplit nos cœurs de piété et qu'après le Ramadan le musulman prenne un autre départ dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos soeurs. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.